Je vous présente maintenant notre intervenant de ce soir, Jean Wezenbach, qui nous accompagne d'ailleurs depuis l'an 2000. Il est directeur du Centre national de séquençage, le génoscope d'Evry. Et hier, Bernard Cloarec en parlait. Jean Wezenbach est né en 1946. Il est entré au Centre national de la recherche scientifique en 1970, devenu docteur en sciences en 1977. Il a fait un stage postdoctoral à l'Institut Weizmann, puis à l'Institut Pasteur, 77 à 81. Et son domaine de recherche depuis ces années-là, c'est la génétique moléculaire humaine. Au début des années 90, il a établi avec son équipe au laboratoire Généton la première carte génétique humaine de haute résolution. Et depuis 1997, Jean Wezenbach dirige le Centre national de séquençage, Génoscope, qui a contribué au séquençage de grands génomes, génome humain, chromosome 14, et de génomes de micro-organismes, comme on en parlait hier. Ces activités présentes couvrent la génomique des micro-organismes, de l'environnement, leur métabolisme et l'identification de nouvelles activités enzymatiques. Il est membre de nombreux comités éditoriaux et il a publié, bien évidemment, des contributions savantes dans les revues spécialisées. Donc je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine, 50 à 60 minutes à peu près. Et puis ensuite, selon nos bonnes habitudes, il répondra aux questions que vous lui poseriez. Je vous remercie. À vous.
Bonsoir. Donc, je vais vous parler ce soir de l'utilisation d'une technologie qui est la génomique, avec quelques-unes de ses variantes, pour aborder un problème qui est un problème extrêmement ancien, et on va d'ailleurs commencer par un tout petit peu d'histoire sur ce problème ancien. Aussi, tout de suite, pour fixer les idées, la génomique a été beaucoup utilisée ces dernières années pour étudier des microbes particuliers, notamment beaucoup de pathogènes. Beaucoup de génomes de micro-organismes ont été séquencés. Je n'aborderai pas cet aspect-là. Je resterai beaucoup plus sur, disons, l'autre aspect de la microbiologie, qui est celui de la microbiologie environnementale, où, disons, on a d'autres approches dont je vais parler pour, disons, étudier cette question. Alors, refaisons un tout petit retour dans le passé, un peu plus de 3 siècles, au moment où on commence à savoir polir du verre, on le fait déjà de façon assez précise, Anthony van Leeuwenhoek réalise un microscope et observe tout un tas de prélèvements de l'environnement, en particulier des gouttes d'eau, et est absolument effaré de voir que ces gouttes d'eau renferment une quantité gigantesque de petits organismes, et c'est lui le premier, en fait, qui a vu les microbes. Et ce qu'il a vu en particulier, ce sont des bâtonnets, les bacilles, et des formes rondes, les coccies, qui étaient en fait les premières formes qu'on pouvait voir à l'époque. Et aujourd'hui encore, disons, on utilise bien sûr ces terminologies-là et ce type d'observation pour distinguer les microbes les uns des autres. On a d'ailleurs, pendant très longtemps, été pratiquement limité à ces observations microscopiques pour distinguer les microbes les uns des autres. Donc on a vu des formes un peu plus complexes, telles qu'ici, des vibrions, des spiriles, des spiroquettes, et puis les arrangements des coccyx, eux aussi, étaient particuliers, soit sous forme de diplocotes, soit sous forme de chaînes dans les streptocoques, soit sous forme d'amas dans les staphylocoques, etc. Et ce sont ces caractéristiques microscopiques qui ont été utilisées pendant de nombreuses années pour distinguer les microbes les uns des autres. Bien sûr, les progrès en matière de microbiologie ne sont pas venus tout de suite. Il a fallu attendre, disons, pratiquement presque 2 siècles, 1 siècle et demi. pour que les choses commencent à avancer sérieusement. Et il me semble important de mentionner le nom de Schwann, qui a d'ailleurs tout un tas d'autres contributions à son actif. Schwann a été le premier à proposer que la levure, qu'on savait être un ferment, eh bien que la levure était un organisme vivant. Et ceci a été extrêmement mal reçu à l'époque, notamment par les chimistes, qui ont émis des critiques extrêmement vives, extrêmement violentes à l'égard de Schwann. Mais quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, en fait, Pasteur a confirmé les prémices de Schwann et a confirmé qu'effectivement, il y avait toute une série de micro-organismes qui étaient capables de fermenter des produits, ici des produits alimentaires, ou ici du sucre, et ainsi de suite. Et ça aussi, ça a été à l'époque mal reçu. Là encore, les chimistes et les mêmes ont continué à critiquer Pasteur, mais enfin, un peu plus tard, les choses sont rentrées dans l'ordre et tout le monde a fini par admettre que le vivant avait une activité de fermentation, était capable de cette activité de catalyse pour transformer les molécules les unes dans les autres. Et ça, ce sont vraiment les débuts de la microbiologie. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que maintenant, on dispose d'une autre méthode que celle de l'observation microscopique, puisque ces microbes ont des propriétés biochimiques, des propriétés de fermentation qui sont capables, là aussi, de les distinguer les uns des autres. Donc, en combinant et les observations microscopiques et les capacités de fermentation, bien sûr, on augmente déjà considérablement la capacité de différencier les microbes les uns des autres. Et puis, une génération après, un autre microbiologiste extrêmement célèbre, aussi célèbre que Pasteur, Koch, lui aussi a considérablement fait avancer le problème, alors que Pasteur pratiquement travaillait toujours avec des suspensions microbiennes en liquide, Koch a eu l'idée d'utiliser des milieux solides, et ceci lui a en particulier permis d'isoler les espèces les unes des autres sur des boîtes de pétri de ce type-là, donc sur un gel contenant un milieu nutritif. Il a été capable, pour la première fois, d'isoler des colonies bactériennes et chaque colonie représentant une espèce pure. Et ça a été un progrès considérable, en particulier dans le domaine de la microbiologie médicale où il était absolument crucial de pouvoir démontrer le pouvoir pathogène d'une espèce particulière. Ici, une autre illustration de culture microbienne. Ceci, ce sont des bactéries Gram+, qui donnent des colonies extrêmement curieuses à observer. Et donc, Koch a en particulier postuler la nécessité d'obtenir des cultures pures pour pouvoir montrer que des organismes distincts ont des propriétés biologiques différentes et en particulier ont des capacités d'infection qui sont différentes les uns des autres. Et ceci, en fait, a carrément tracé la voie pour une très longue période à la microbiologie, voie qui a été utilisée pendant de très nombreuses années donc par les microbiologistes. On peut même parler presque d'une ornière, puisque les gens se sont contentés, encore une fois, d'utiliser toutes les règles émises par Pasteur et par Koch pour faire avancer cette discipline. Et pendant quand même de nombreuses années, on s'est posé la question de savoir si ces bactéries, ici vous avez une bactérie très connue qui est Escherichia coli. C'est une vue à un microscope électronique. Et cette bactérie Escherichia coli, en fait, a été le modèle qui a permis, un des modèles qui ont permis de montrer qu'il y avait bel et bien une unicité dans le vivant et que les bactéries, en fait, suivaient les mêmes lois dans le domaine de l'évolution et dans le domaine de la génétique que les autres organismes vivants. Et à partir de là, en fait, ce sont ces bactéries extrêmement faciles à cultiver, faciles même à observer d'une certaine manière, qui ont été les modèles d'études les plus étudiés pour toute une série de travaux en biologie, des travaux très fondamentaux qui ont permis, bien entendu, d'établir ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie moléculaire. C'est les ADN qui ont été les bactéries qui ont été les premières à être utilisées pour montrer que l'ADN était le vecteur de l'hérédité. À côté de ça, on a également pu montrer comment cette information génétique s'exprimait à l'aide de ces systèmes bactériens et comment ils se répliquaient, et ainsi de suite. Donc, là, il y a eu une floraison au cours des années 60 et 70 de résultats qui ont été des résultats majeurs en biologie moléculaire et qui sont établis à partir de ces organismes microscopiques, à partir de ces bactéries. Ici, voici encore une fois du colis. Cette fois-ci, disons, on voit une structure un peu plus interprétée, bien entendu. Et vous voyez une espèce de masse granulaire à l'intérieur. Et cette masse contient en particulier ce qu'on appelle les ribosomes, qui sont les machineries de la synthèse protéique. Et en fait, c'est l'étude de ces machineries et des constituants de ces machineries qui ont permis de faire évoluer la microbiologie d'une certaine manière. Et ceci a été réalisé par un chercheur, un chimiste en fait, qui s'appelle Karl Booth, qui, au cours des années 70, a procédé à des comparaisons systématiques de séquences d'ARN de ces ribosomes, donc de ces machineries de synthèse protéique, et ces comparaisons, il les a faites systématiquement en étudiant la structure de ces ARN par des techniques qui à l'époque étaient semblaient extrêmement fruses. Alors j'ai beaucoup de plaisir à montrer ce genre de résultats parce que quand j'étais jeune étudiant, en fait, je réalisais ce même genre d'empreintes qu'on appelait des fingerprints. Et donc ces empreintes sont des autoradiogrammes avec des molécules marquées au phosphore 32 et chaque tache représente un nucléotide ou un oligonucléotide. Et en comparant donc ces empreintes les unes aux autres, Karl Booth fait une observation absolument essentielle. Il montre que les ARN ribosomiques des bactéries, les bactéries classiques, sont différents des ARN ribosomiques d'une catégorie particulière de bactéries, qu'on appelait les bactéries méthanogènes, parce qu'elles produisaient du méthane. Elles vivaient en anaérobiose. Et ces différences sont ici localisées au niveau de ces ellipses rouges. Et en regardant ces différences, Karl Booth en arrive à la conclusion que les bactéries standards sont différentes et évolutivement éloignées de ces bactéries méthanogènes. Et puis, il pousse l'idée plus loin en utilisant la molécule homologue donc de cet ARN ribosomique chez les cellules eucaryotes, et il fait des comparaisons de séquences. Alors ces comparaisons de séquences se font donc tout simplement en déterminant la séquence de petits morceaux de ces ARN. En fait, à l'époque déjà, on séquençait les ADN, on ne séquençait plus les ARN parce que c'était plus facile de le faire à partir de l'ADN. Et vous voyez qu'il y a dans ces successions de lettres, donc ça ce sont sept séquences qui sont quasiment identiques, sauf aux endroits où on a des variations en rouge. Et c'est en étudiant ces variations, en fait, qu'on peut reconstituer le passage par des mutations d'une de ces molécules à une autre. Alors ici, on a pris la molécule A comme référence, mais ceci ne préjuge pas du tout du fait que A soit la molécule originale. On voit qu'à par deux changements ici, on peut passer de A à C, et en représentant donc ces changements, on arrive à reconstituer des espèces de cheminements. Donc ici, pour passer de C vers B, il faut encore une fois trois changements supplémentaires. Pour passer de A à D, il faut là aussi trois changements, D ici, 1, 2, 3. Mais on peut aussi passer de C vers D, également par trois changements, en rechangeant cette lettre-là et également en changeant ces deux-là. Et ainsi de suite, passer de C vers E, il faut là aussi deux changements. Je ne détaille pas. Passer de C vers F, et à chaque fois, le passage qu'on utilise ici, c'est celui qui applique la loi de parcimonie, c'est-à-dire le passage entre deux formes qui nécessitent le moins de changement. Donc pour arriver à la forme F, le moins de changement, c'est de partir de la forme C, et par trois changements, on peut passer de C vers F. Et ainsi de suite. Et F, pareil, pour arriver à G, le passage le plus parcimonieux, le plus économique, nécessitant le moins de changement, sera celui qui part de F, et où on aura accumulé ces 8 ou 9 changements différents, sachant qu'il y en a déjà 5 autres qui se sont accumulés sur F et qu'on retrouve sur G. Donc ça permet de faire une filiation entre ces différentes molécules, mais cette filiation, bien sûr, ici restreinte, puisqu'on ne sait pas quelle est l'origine, ça peut aussi bien être G, que n'importe laquelle de ces cases peut être à l'origine des autres. Il est impossible, dans un système comme ça, de dire quelle est l'origine. Il est nécessaire, pour pouvoir faire ceci, de disposer d'autres séquences qui sont plus éloignées, on appelle ça des groupements extérieurs, pour arriver à véritablement retracer une généalogie entre ces différentes molécules. Et je crois que lors de la précédente session consacrée à l'évolution et aux problèmes d'évolution et de variation dans le domaine du vivant, ces questions ont été abordées. Donc ça nous ramène à l'Université de tous les savoirs de 2004. Donc, en faisant ces généalogies, en fait, Carl Woese montre qu'il y a trois grands groupes dans le vivant, les eucaryotes, les cellules avec des noyaux, et deux groupes de procaryotes, donc des cellules sans noyaux, mais qui sont extrêmement éloignées l'un de l'autre, et même, ici, je vais peut-être passer là-dessus, on voit que ces fameux, donc dans ces procaryotes, il y a d'une part les bactéries classiques, et d'autre part ce qu'on appelle aujourd'hui les archées, et que ces archées sont sans doute plus proches des cellules à noyaux que les bactéries. Et ça, c'est également une des observations majeures. Alors, ce qu'il faut aussi, et ça ouvre une parenthèse, c'est que cette même molécule, cette même molécule de RNA ribosomique a également été utilisée. Donc, je vais essayer de rapprocher le micro. Cette même molécule a été utilisée en particulier pour refaire la classification dans les eucaryotes, c'est-à-dire dans les cellules à noyaux, classification qui a abouti à des remises en cause considérables des anciennes classifications basées sur d'autres caractères. J'ai déjà mentionné donc cette parenté proche entre les cellules eucaryotes et les archées, plus éloignées des bactéries, alors qu'anciennement, on représentait les eucaryotes comme issus des procaryotes, mais ceci, aujourd'hui, est complètement remis en question. Une fois ces observations faites, le problème a été repris de façon différente, cette fois-ci par un autre Américain qui s'appelle Norman Pace. Norman Pace prend des échantillons de l'environnement, ces échantillons contiennent bien sûr des bactéries, extrait l'ADN à partir de ce mélange, et ensuite procède à l'analyse, par une étape de PCR, à l'analyse de ces ARN ribosomiques amplifiés par cette méthode de PCR. On introduit ça dans du colis, enfin, ce sont les méthodes classiques de biologie moléculaire, on séquence ces molécules, et on analyse les séquences obtenues. Et là, grosse surprise, à côté de l'identification d'espèces connues, qui sont mentionnées ici, Norman Pace trouve tout un tas d'autres séquences, donc ce sont les séquences qui sont ici en jaune, qui correspondent, elles, à des séquences dont on n'a aucune idée de la réalité. Il s'agit à chaque fois de séquences provenant d'espèces qu'il considère comme non connues à l'époque et probablement comme non cultivées, et on a même dit non cultivables, parce qu'effectivement, lorsqu'on essaye d'obtenir des cultures pures, jamais on obtient ces fameuses bactéries porteuses de ces séquences indiquées en jaune ici. Donc ça a été, là aussi, une découverte absolument considérable dans le domaine de la microbiologie. Un grand nombre de microbes, en fait, nous sont parfaitement inconnus. Et donc ça, c'est cette conclusion. Et lorsqu'on retourne à, disons, tout un tas d'environnements particuliers, là aussi, on s'aperçoit que chacun de ces environnements est peuplé de tout un tas d'espèces dans un certain nombre de cas, on sait cultiver certaines de ces espèces, mais la plupart d'entre elles ne sont pas cultivables. Donc ça, vous avez des milieux à pH extrêmement acide, à pH extrêmement alcalin. Vous pouvez obtenir des bactéries dans des milieux avec des pressions très élevées, des salinités très élevées, des températures très élevées ou très basses, et ainsi de suite. Et ça nous ramène en fait à des périodes extrêmement anciennes où les conditions de vie sur Terre étaient particulièrement difficiles, des milieux particulièrement inhospitaliers, et conditions dans lesquelles, en fait, la vie est apparue. Et elle a dû apparaître, pour autant qu'on en sache, aujourd'hui, vers, disons, il y a 3,8 milliards d'années. Donc les premières traces de vie cellulaire remontent à cette époque-là. Elles ont été identifiées dans des roches particulières qu'on appelle des stromalites. Ici, des stromalites retrouvés sur la côte australienne, donc contenant des fossiles de bactéries datées d'il y a 3,8 milliards d'années, ce qui est quand même absolument considérable. Une fois que une fois qu'elle est apparue, ensuite, ces bactéries, bien sûr, se sont mises à évoluer. Et elles se sont mises à évoluer pour différentes raisons, bien sûr, parce qu'une compétition, au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de ces bactéries, une compétition s'est instaurée pour, les sources d'énergie et les sources de matières premières. Et pour échapper à la compétition, en fait, pour gagner cette compétition d'une certaine manière, les bactéries ont recouru à l'innovation, exactement comme de nos jours, les entreprises recours à l'innovation pour essayer de se distinguer de leurs compétiteurs. Et cette diversification porte aussi bien sur les sources d'énergie que les sources de matières premières, et porte aussi, bien sûr, sur les environnements dans lesquels ces bactéries se développent. Donc l'énergie est de deux natures essentiellement. Soit les bactéries utilisent l'énergie chimique à partir de réactions d'oxydoréduction, donc de transfert d'électrons, soit utilise la lumière. Et là aussi, il y a eu plusieurs apparitions de l'utilisation de la lumière. Elle peut se produire avec ou sans production d'oxygène. Et ça aussi, c'est une conséquence extrêmement importante. Lorsque les bactéries ont commencé à utiliser cette énergie lumineuse en produisant de l'oxygène, ça a été une autre révolution qui s'est produite dans le domaine du vivant. Même chose pour les matières premières, même chose, bien sûr, pour les différentes conditions du milieu. Et au fur et à mesure aussi que ces différences dans le métabolisme de ces bactéries apparaissaient, bien sûr, le nombre de formes différentes, lui aussi, a commencé à foisonner et à s'accumuler. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les milieux tels qu'on les trouve dans la nature, on voit que tout milieu renferme des bactéries en quantité assez importante, et on voit aussi que pratiquement la quasi-totalité de ces bactéries ne sont pas connues parce qu'on ne sait pas les cultiver. Donc ces bactéries sont partout, dans les sols, dans les eaux, dans les aliments. Bien sûr, on en a aussi sur notre corps, dans nos cavités. Et ce sont et ces bactéries en fait vivent en symbiose avec nous. Lorsqu'on s'intéresse à un problème plus particulier, qui est celui de notre flore intestinale, cette flore intestinale est constituée de 100 000 milliards de bactéries, c'est-à-dire 10 fois plus de cellules dans notre intestin que de cellules humaines constituant notre corps. Donc c'est un en fait, nous sommes un espèce de symbiote constitué et de nos bactéries et de nos cellules eucaryotes. Et cette quantité absolument gigantesque de bactéries que nous hébergeons, en fait, elles apparaissent au fur et à mesure de la vie. Lorsque nous naissons, notre tube digestif ne contient pas de bactéries et progressivement, l'intestin est colonisé par une flore qui va se diversifier aussi au fur et à mesure du changement de régime alimentaire que nous allons nous-mêmes subir en passant d'un régime exclusivement lacté à un régime de plus en plus diversifié. Les bactéries que nous hébergeons vont devenir de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses. Et en fait, ces bactéries vivent en interaction avec nous. Et il ne s'agit pas de bactéries pathogènes, ce sont des bactéries qui ont certainement un rôle utile, notamment dans la digestion. Et en termes de nutrition et en termes de santé, ces bactéries sont importantes pour nous. Donc ça, c'est ce qui nous concerne nous. Maintenant, si on se retourne vers la planète, on s'aperçoit que là aussi, la quantité de bactéries est absolument gigantesque, puisque la biomasse microbienne représente un peu plus de la moitié de la biomasse terrestre. C'est-à-dire qu'il y a, en termes de masse, de matière vivante, plus de bactéries qu'il n'y a de plantes, sachant que les animaux représentent une quantité extrêmement faible, en fait, de la biomasse totale. Alors, de quoi est constituée cette biomasse ? Et lorsqu'on la compare, en fait, à la croûte terrestre, on s'aperçoit que la composition est quand même extrêmement différente. Certains éléments sont beaucoup plus abondants dans la biomasse que dans la croûte terrestre et inversement pour d'autres éléments. Les éléments les plus abondants dans la biomasse sont bien sûr le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote. Éléments comme le carbone et l'azote qui sont relativement peu abondants au niveau de la croûte terrestre. Et les bactéries, en fait, ont permis justement cette accumulation de ces éléments dans la matière vivante. D'abord en ce qui concerne le carbone. D'où vient le carbone ? Le carbone vient en fait de deux sources. D'une part, du carbone minéral ou gazeux. Il y a toute une série de bactéries qui sont capables de stocker du carbone. Bien sûr, l'essentiel du carbone provient aujourd'hui de la photosynthèse, donc des plantes. Donc l'essentiel du carbone stocké provient des plantes, mais les bactéries sont elles aussi capables de stocker ce carbone. Et puis, il y a bien sûr le carbone organique que là aussi, que nous consommons à longueur de journée, puisque nous sommes incapables d'utiliser du carbone minéral. Là aussi, il existe tout un tas de bactéries incapables d'utiliser ce carbone minéral. Mais ces bactéries, comme nous, participons à ce cycle de cet élément. Cycle qui est représenté ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce cycle. Nous n'avons pas vraiment le temps. Sachons néanmoins que ce cycle peut se dérouler de deux manières. Soit dans un milieu en présence d'oxygène, où des composés organiques sont transformés en CO2, soit en absence d'oxygène, où ces mêmes composés organiques, cette fois-ci, peuvent être transformés en méthane, à côté d'une petite transformation en CO2. Donc, il y a là quelque chose de particulièrement important, ce méthane, c'est celui-ci qui est à l'origine en fait, de tous les hydrocarbures qui sont stockés au niveau de la croûte terrestre. Autre élément absolument déterminant, c'est l'azote. Cet azote, d'où vient-il ? Il vient essentiellement de l'azote atmosphérique ou de composés minéraux de l'azote qui sont soit des dérivés réduits comme l'ammonium ou des dérivés oxydés comme les nitrites ou les nitrates. Et là aussi, il y a un cycle de cet azote. Et là, cette fois-ci, pour ce qui est de la fixation de l'azote, il n'y a que les bactéries qui soient capables de fixer de l'azote. Donc tout le monde a besoin d'azote, tous les êtres vivants ont besoin d'azote, et cet azote provient de l'azote, bien sûr, minéral, azote minéral, fixé par les bactéries. Je vais passer celle-ci en vitesse. Donc ça, ça représente également ce cycle de l'azote qui lui aussi peut se dérouler dans des conditions oxiques ou anoxiques. Là aussi, reposant essentiellement sur des transformations réalisées par les bactéries. Donc les bactéries, en fait, ce sont elles qui permettent à la planète de couler des jours heureux, et ce sont elles qui assurent ces cycles biologiques absolument essentiels comme ceux du carbone et de l'azote, et ce sont elles qui en fait font le ménage à longueur journée. Et comme on ne les voit pas, on peut considérer que ces bactéries sont véritablement nos anges gardiens et maintiennent la planète en état, habitable pour nous. Et comme l'a dit Louis Pasteur, en fait, cet infiniment petit représenté par ces bactéries joue un rôle infiniment grand pour la vie de la planète. Et aujourd'hui, en fait, nos connaissances ont été essentiellement obtenues à partir de quelques espèces qui ont été étudiées de façon détaillée. Parmi les 5000 espèces répertoriées, aujourd'hui, en fait, en l'espace de quelques années, ce nombre a augmenté. Nous en sommes maintenant à peu près à 8 ou 9 000 espèces qui sont répertoriées. Donc répertoriées, ça veut dire qu'on sait les cultiver. Donc on a fait des progrès dans ce domaine-là. Mais ça représente quand même encore une fraction extrêmement faible de ce qu'on sait cultiver, 1%. Et le monde microbien, pratiquement, pour l'essentiel, n'est pas encore exploré. Donc le gros du travail reste encore à faire. Et les contributions à la vie de la biosphère, que je viens de mentionner tout à l'heure, en fait, ne sont pas encore connues dans tous les détails. Et en particulier, on découvre régulièrement de nouvelles étapes qui sont réalisées par, des conversions chimiques bactériennes dans les cycles des éléments comme le carbone et l'azote. Donc on a encore découvert ces dernières années de nouvelles façons d'oxyder ou de réduire des dérivés du carbone ou de l'azote. Et ceci, bien sûr, nous indique toute une série de raisons qu'il y a aujourd'hui à s'intéresser à ces communautés bactériennes. D'abord parce qu'elles ont donc un impact, comme on vient de le voir, sur les équilibres biogéochimiques. Il s'agit de savoir pour nous quels sont les acteurs de ces équilibres et quelles sont les étapes, en particulier les nouvelles étapes que ces bactéries sont capables de remplir. Autre impact, comme on l'a vu aussi, les communautés microbiennes de notre tube digestif, par exemple, mais aussi de tout un tas d'autres cavités, de la peau, tous ces équilibres ont un impact sur la santé. Les écosystèmes que nous étudions souvent, les communautés bactériennes peuvent servir de modèle d'étude pour ces écosystèmes. Il y a aussi, je ne les mentionnerai pas, c'est toute une série d'utilisations aujourd'hui qu'on fait, je ne ferai que les mentionner, les bactéries. Les bactéries sont bien sûr capables de synthétiser des substances thérapeutiques comme les antibiotiques, des substances d'intérêt industriel, de plus en plus, avec le renchérissement du prix du pétrole, des process industriels faits par des bactéries vont devenir intéressants dans les années à venir. Les bactéries sont également capables, bien sûr, de produire des enzymes pour la chimie de synthèse. Et, on l'a déjà vu sous certains aspects, mais il y en a d'autres, les bactéries font le ménage au quotidien. Le nombre de polluants dus à l'activité humaine, en particulier les polluants chimiques rejetés par les industries, qui sont souvent constitués de substances qui n'existaient pas ou à l'état de trace au niveau de la planète, en fait, très rapidement, les bactéries sont capables de s'adapter et de dégrader ces polluants chimiques qui apparaissent nouvellement, ces polluants chimiques qu'on appelle les xénobiotiques. Enfin, l'étude des systèmes bactériens et des communautés bactériennes nous apporte aussi de nouveaux éclairages sur l'évolution. Donc, il existe aujourd'hui toute une série de méthodes. On a déjà mentionné celle-ci. Je vais maintenant m'apesantir un petit peu sur une méthode dérivée de la génomique pour étudier ces communautés bactériennes. Cette méthode, en fait, part d'échantillons de l'environnement, donc là encore de flore bactérienne issue de milieux comme le sol, comme les eaux, et ainsi de suite. On extrait l'ADN, on l'introduit dans Escherichia coli, et toujours la même technique, la génomique, elle sait faire une chose, c'est séquencer ces ADN, et à partir de ces séquences d'ADN, on va bien sûr essayer d'interpréter les résultats. Ici, on est dans des cas extrêmement compliqués. Chacune de ces couleurs, ce n'est pas un tableau de Kandinsky, chaque couleur représente le génome, enfin chaque brin coloré représente le génome d'une espèce bactérienne. Donc, dans ces flores extrêmement complexes, bien sûr, nous avons des mélanges, là aussi, extrêmement complexes de molécules d'ADN d'origine différente. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, la première chose qu'on sait faire, et on y a déjà fait allusion, c'est d'identifier un gène particulier, c'est ce fameux gène d'ARN ribosomique présent sur chacun de ces génomes. Ces gènes se ressemblent, mais ils ont quelques petites différences. Et ici, donc ce fameux gène rouge, donc l'ARN ribosomique, est constitué de parties qui sont spécifiques à cette espèce et de parties qui sont communes à l'ensemble des espèces bactériennes. Ce sont grâce à ces parties communes, en fait, qu'on arrive à reconnaître ce fameux gène d'ARN ribosomique. Et quant aux parties ici en bleu, qui sont bien sûr différentes dans chacune des espèces, ces parties colorées vont nous permettre de distinguer les différentes espèces les unes des autres et de faire l'inventaire des espèces qui sont présentes dans le mélange de départ. Donc ça, c'est déjà conséquence importante. Et on va pouvoir également non seulement distinguer les espèces qui sont dans le mélange, mais on va aussi pouvoir savoir lesquelles sont connues et inconnues là-dedans et dans quelle proportion elles sont présentes les unes par rapport aux autres. Et ensuite, on va utiliser ces séquences d'ADN pour faire ce qu'on appelle des sondes, c'est-à-dire pour prendre les molécules, les marquer avec des agents fluorescents et retourner aux colonies, enfin ce n'est pas des colonies, mais disons les flores bactériennes de départ, utiliser ces colorants fluorescents et détecter les bactéries qui contiennent une espèce particulière. Donc ça permet là aussi d'avoir une idée plus précise sur la quantité d'une espèce présente dans une flore donnée. Autre chose qu'on va essayer de faire, c'est, donc on part de ce mélange-là, de nouveau, c'est le même. Cette fois-ci, on va le couper en tout petits morceaux. Et là, vous voyez, ça devient de plus en plus compliqué. Et ensuite, une fois qu'on a ces petits morceaux, évidemment, on se heurte au problème les plus ennuyeux. Lorsqu'on aura fait la séquence de ces petits fragments, on aura des données qui seront elles-mêmes très fragmentaires. Il va être très difficile de relier les morceaux les uns aux autres. On perd les liens avec les cellules d'origine, et ça, c'est bien sûr quelque chose qui est extrêmement handicapant. Et en plus, non seulement on perd les liens avec ces cellules d'origine, mais la plupart de ces cellules d'origine, on ne les connaît même pas. Donc, ces trois difficultés, on va essayer de les surmonter avec des méthodes d'analyse de séquences qui sont donc basées sur des techniques d'informatique. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais ça permet quand même, dans un certain nombre de cas, de reconstituer des fragments qui sont plus grands, et ensuite de procéder à des analyses de ces fragments qui sont plus grands. Et on va, à la suite de ça, disons, obtenir un certain nombre de résultats. Et ici, je ne vais faire en fait que mentionner quelques-uns des résultats qu'on a obtenus à partir de ces analyses de la métagénomique. On a d'une part réussi à reconstituer la séquence de plusieurs bactéries qu'on ne savait pas cultiver. Donc on sait, même si on ne sait pas cultiver ces bactéries, on est arrivé à reconstituer la totalité de génome. Bien sûr sous forme de séquences d'ADN, totalité de séquences génomiques de bactéries qu'on ne savait pas cultiver. Et celles-ci, il y en a aujourd'hui, j'ai au moins trois exemples en tête. Une bactérie capable de vivre dans des conditions d'acidité extrême, un pH inférieur à 1, ce qui est quand même un record. Ensuite, une bactérie qui, elle, est capable de vivre, disons, en anaérobiose. En anaérobiose, manifestement, on en sait encore beaucoup moins que ce qui se passe en aérobiose, et le nombre d'espèces bactériennes qu'on connaît qui sont anaérobies est nettement réduit par rapport au nombre d'espèces aérobies. Et puis, il y en a un troisième, c'est une bactérie qui est capable, qui joue un rôle extrêmement important dans le cycle de l'azote, qui est capable de réduire des nitrites ou des nitrates en utilisant l'ammoniac comme réducteur. Et ça, c'est une réaction qu'on ne connaissait pas du tout et qui, en fait, a une importance considérable sur le cycle de l'azote et qui modifie complètement la vue que nous avons sur ce cycle biologique. La même chose se produit d'ailleurs pour le cycle du carbone, où là aussi, on pense que les projections qu'on fait aujourd'hui en matière de cycle de carbone sont encore erronés, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'agents microbiens qu'on ne connaît pas et qui participent à ce cycle. Vous avez peut-être entendu parler de l'expédition réalisée par Craig Venter dans des océans tropicaux. Et une des grosses surprises, là aussi, ils ont donc analysé des flores bactériennes extraites de ces milieux marins. Et une des plus grosses surprises, ça a été de constater la très grande fréquence de ce gène de protéorhodopsine. La protéorhodopsine, en fait, est une protéine qui permet de récupérer l'énergie lumineuse pour ensuite convertir cette énergie lumineuse en ATP, donc en énergie utilisable pour la bactérie. Ce n'est pas de la photosynthèse, c'est quelque chose de différent, mais néanmoins, c'est là aussi une utilisation de l'énergie lumineuse, et ça montre qu'en fait, une très grande partie des espèces bactériennes qui sont présentes dans ces milieux marins fonctionnent grâce à à l'énergie lumineuse. On a également découvert dans ces études métagénomiques des dizaines de milliers de gènes dont aujourd'hui les fonctions sont totalement inconnues. Et un grand nombre, en fait, de ces fonctions sont vraisemblablement des activités enzymatiques correspondant à des conversions biochimiques qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourraient présenter un grand intérêt, disons, dans cette orientation de la chimie vers ce qu'on appelle la chimie verte. Aujourd'hui, la chimie reste essentiellement basée sur l'utilisation des hydrocarbures et est une chimie qui est, disons, très vorace en énergie, elle va avoir, bien sûr, à se réformer de plus en plus vite avec l'augmentation du prix de ces hydrocarbures, aussi bien sur, en matière de source de carbone qu'en matière d'énergie. Et une des voies de sortie de cette chimie, c'est donc de devenir ce qu'on appelle une chimie durable ou une chimie verte, qui utilisera et s'appuiera de plus en plus sur des bioconversions réalisées à l'aide d'enzymes présentes certainement dans les bactéries. Enfin, la plupart des enzymes qu'on utilisera dans ce domaine des bioconversions vont provenir de bactéries, tout simplement parce que la diversité biochimique de ces bactéries est absolument colossale. Dernier résultat sur lequel je vais juste là aussi faire une toute petite mention, c'est des études récentes qui ont montré qu'on arrivait à associer avec l'obésité un changement dans la composition de la flore bactérienne du tube digestif, alors que des sujets qui sont soumis, disons, à des régimes plutôt hypocaloriques ont une flore constituée de certains types de bactéries, en particulier de bactéries qu'on appelle bactéroïdetes. Les gens qui, eux, ont un régime plutôt riche en calories, eux, ont une flore bactérienne beaucoup plus riche en autres types de bactéries, qu'on appelle des firmicutes, qui sont des bactéries gram-positives. Et donc, là aussi, on peut penser que en essayant de jouer sur la composition de ces flores, on pourra peut-être, disons, influer sur l'installation ou non de l'obésité. Les résultats que j'ai mentionnés ici sont, je dirais, des résultats très préliminaires et très initiaux. Et ces études de métagénomique, en fait, en sont à leur tout début. Donc je ne fais ici que survoler quelques-uns des faits marquants, mais je crois que dans les années à venir, il va y en avoir de plus en plus qui vont s'accumuler. Et je vous donne rendez-vous à une autre séance de l'Université de tous les savoirs dans quelques années, peut-être pour passer de façon plus détaillée sur les résultats que nous aurons obtenus par ces nouvelles approches. Voilà, je vous remercie de votre attention.
On passe aux questions. Il y a une question juste devant.
Oui, deux questions relativement élémentaires. Quel est le nombre de bases dans le génome de ces bactéries? N'est-ce pas, dans l'homme, il y a 3 milliards de bases. Quel est le nombre? À peu près, bien entendu.
Alors, pour un génome bactérien moyen, il y a à peu près entre 3 millions et 4 millions de bases. Mais il y a des bactéries dont les génomes sont plus petits. Ça peut descendre jusqu'à 500 000, ce qui est très peu. Mais il s'agit dans ce cas-là de bactéries qui sont strictement intracellulaires, c'est-à-dire qu'elles ont perdu tout un tas de gènes, tout un tas de fonctions qui sont en fait où elles utilisent les métabolites de la cellule qu'elles colonisent. Et à l'inverse, il y a des génomes de bactéries qui peuvent aller, disons, jusqu'à 7 ou 8 millions de bases. Donc on est évidemment à une échelle quand même à peu près 1000 fois en dessous de la taille du génome humain. Mais ça, c'est en taille de génome. Maintenant, en nombre de gènes, les différences sont quand même moins grandes. Aujourd'hui, on en est à 20 à 22 000 gènes chez l'homme. Les bactéries, un gène fait à peu près 1000 bases, donc vous faites, et pratiquement tout le génome des bactéries est codant, alors qu'en ce qui concerne le génome des mammifères, il y a des grosses parties qui ne sont pas codantes.
Donc pour un génome bactérien de 3 millions de bases, ça fait à peu près 3000 gènes. Vous divisez par 1000 et vous avez à peu près le nombre de gènes. Un gène a à peu près une taille de 1000 bases, 300 aminoacides. Dans ces, ça, c'est un gène moyen, évidemment, il y a des variations.
D'éléments figurés, généralement, on a un chromosome ou plusieurs chromosomes ?
En général, on a un chromosome, mais on connaît des cas où il y a deux chromosomes. La plupart des cas, les chromosomes sont circulaires, mais on connaît des cas où il y a des chromosomes linéaires, en particulier les grands génomes d'actinomycètes, donc de bactéries qui fabriquent des antibiotiques. On a un génome linéaire relativement grand. Ce qu'il y a aussi, il y a d'autres... Il y a d'autres éléments chromosomiques, comme des plasmides, qui sont également présents dans les cellules bactériennes. Ces plasmides sont bien sûr en général beaucoup plus petits, bien que là aussi, il existe ce qu'on appelle des mégaplasmides qui peuvent aller jusqu'à 1, voire 2 millions de bases. Et on sait difficilement faire la différence en fait, entre ces grands plasmides et des chromosomes. Il semble même que ces grands plasmides, en fait, ce sont véritablement des chromosomes, parce qu'on ne connaît... Un plasmide, ce qui permet de distinguer un plasmide, de l'ADN bactérien, c'est que la bactérie peut vivre avec ou sans. Mais ces très grands plasmides, on n'arrive pas à les éliminer de la bactérie, donc on peut penser que ce sont plus des chromosomes que des plasmides.
Je me permettrai une dernière question. Comment vous faites pénétrer, je prends par exemple, on a reproduit l'insuline en utilisant Escherichia coli, comment vous faites pénétrer, comment vous clonez en quelque sorte ? Vous introduisez...
Alors, il y a différentes méthodes. La méthode la plus classique pour une bactérie comme Escherichia coli, c'est de la traiter avec des sels de calcium. Les sels de calcium introduisent des pores dans les membranes, dans les parois, et permettent à l'ADN de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Ensuite, l'ADN va s'intégrer au niveau du chromosome bactérien.
Première question, au point de vue des virus, est-ce qu'ils sont plus simples au point de vue de la longueur, par exemple, le nombre de gènes quelle est leur place? Est-ce que ça a éclairé leur place, les études, du point de vue de leur place dans la phylogénèse?
Alors, vous faites bien de poser cette question sur les virus, parce qu'eux aussi sont en fait extrêmement abondants dans l'environnement. Il y en a encore, je ne sais pas combien de fois plus que des bactéries. Donc il y a des virus, dans tous les milieux naturels, il y a énormément de virus. Alors la taille de ces génomes, un virus a un génome, disons, généralement beaucoup plus petit qu'un génome de bactéries. Les virus de bactéries, par exemple, parce qu'il y a des virus aussi bien pour les bactéries que pour les cellules à noyau, que pour les cellules eucaryotes. Ces virus de bactéries ont quelques dizaines de gènes, en général. Maintenant, il existe quelques cas, de virus qui infectent des cellules plus évoluées, des cellules eucaryotes, qui ont des tailles beaucoup plus importantes. En particulier, il y a un groupe marseillais qui a séquencé le génome d'un virus qui faisait, je crois, de l'ordre de 500 000 bases, c'est-à-dire qui était aussi grand, voire plus grand, que les génomes des plus petits bactéries, les plus petits génomes de bactéries. Donc, il y a un recouvrement entre les virus, les génomes de virus les plus grands et ceux des bactéries les plus petites.
La définition de ce qu'est une espèce est la même que pour les animaux ou les végétaux.
On a beaucoup de difficultés à définir ce qu'est une espèce chez les bactéries, parce que la division bactérienne, elle est clonale. Donc les bactéries vont dériver les unes des autres, et par le jeu des mutations, il va y avoir une diversification, il va y avoir des différences qui vont s'introduire jusqu'à ce que finalement on aboutisse à des choses qui sont tellement éloignées qu'on ne peut plus parler d'une même espèce. Donc ça c'est le gros problème pour la définition d'une espèce chez les bactéries. C'est quelque chose qui est flou parce qu'il n'y a pas de reproduction sexuée.
Enfin, dernière question. Vous avez parlé de reconstitution de fragments plus grands. Est-ce qu'il y a des astuces pour faire ça ou bien c'est empirique?
Alors, c'est, quand je parle de reconstitution de fragments plus grands, c'est en fait c'est purement in silico. Ce sont des séquences d'ADN, donc des informatiques. Hein. C'est pas physiquement que ça a été fait, c'est purement informatique. Quand je parlais de reconstitution de fragments plus grands dans ces cas-là.
Allez-y, monsieur.
Oui, sur la base de ce que vous venez de dire, on sait très peu de choses finalement sur l'aspect phylogénétique des bactéries, c'est-à-dire on sait que les premières sont apparues il y a 3,8 milliards d'années, comme vous l'avez dit, mais d'autres ont pu apparaître plus tard. Est-ce qu'on arrive à reconstituer au fond l'histoire des bactéries, c'est-à-dire des bactéries nouvelles qui sont apparues à un moment donné, qui n'existaient pas avant, etc. Est-ce que d'un point de vue phylogénétique, on a des renseignements? Et notamment, va-t-on vers une complexification des génomes dans l'évolution des bactéries, si vous voulez, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a une complexification des génomes ou est-ce que les bactéries, il y a 3 milliards d'années, étaient plus simples que celles d'aujourd'hui ou pas? Voilà, c'est une question.
Alors, c'est une bonne question et on n'a pas la réponse. c'est-à-dire, on a l'impression... Dommage qu'on ait pu... Il y a une image de celle que j'ai montrée qui l'indique. On a l'impression qu'il y a une espèce de... Disons, tous les génomes... Enfin, aujourd'hui, lorsqu'on essaye de faire de la phylogénèse, de la phylogénie sur les génomes bactériens, on a l'impression que tous les génomes bactériens dérivent d'un même ancêtre commun. Il n'y a pas de filiation les uns envers à côté des autres. Ils se branchent tous à peu près au même niveau. Tous les groupes de génomes bactériens se branchent à peu près au même niveau. Donc on a l'impression que les bactéries qu'on connaît aujourd'hui tous les groupes de bactéries qu'on connaît aujourd'hui sont apparus à peu près à la même époque. Mais bien sûr, comme on a une vision très très floue, c'est peut-être complètement faux. Mais c'est l'illusion qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne ces génomes bactériens. On a vraiment l'impression qu'il y a eu une grande différenciation de génomes à des époques extrêmement éloignées, il y a plusieurs milliards d'années. Sachant que, bien sûr, ensuite, le processus continue, parce que il y a un grand nombre de ce qu'on appelle des phylums bactériens. Il y en a aujourd'hui, on en dénombre près d'une centaine. Mais à l'intérieur d'un phylum, là, on peut faire de la datation. Il y a des choses qui sont apparues plus ou moins récemment. Mais les phylums entre eux, on n'a pas d'idée de leur ancienneté. Oui, bien sûr.
Je voudrais savoir s'il existe d'autres exemples connus d'endosymbiose chez les eucaryotes, comme pour les mitochondries, les chloroplastes.
Alors, les chloroplastes et les mitochondries sont, effectivement, lorsqu'on compare les génomes des chloroplastes et des mitochondries, lorsqu'on essaie de les replacer dans ces arbres phylogénétiques, ils se placent clairement avec des phylums bactériens. Les chloroplastes se placent avec les cyanobactéries et il n'y a pas de surprise. Les génomes de chloroplastes se placent avec les cyanobactéries. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là puisque nous savons que, les premières espèces à faire de la photosynthèse de type 2, ce qui est peut-être du jargon pour vous, mais disons de la photosynthèse capable de décomposer l'eau, on va dire, donc capable justement de faire de l'oxygène et qui a été à l'origine de l'accumulation de l'oxygène sur la planète, a été faite par les chloroplastes. Chloroplastes qui ensuite ont été colonisés, certains de ces chloroplastes ont été colonisés par des cellules végétales et pour donner les cellules, enfin par des cellules qui n'étaient pas encore végétales à l'époque, mais pour donner les cellules végétales. En ce qui concerne les mitochondries, c'est un peu la même chose. Les mitochondries sont dérivées d'un groupe de protéobactéries. Je crois que c'est des alpha ou des bêta protéobactéries, donc des bactéries qui sont apparues assez récemment. Et c'est pareil. On sait que les mitochondries sont effectivement, disons, des réminiscences de cellules bactériennes.
D'autres questions ? Monsieur ?
Excusez-moi. Donc, vous aviez parlé un peu des plasmides. Donc, je voulais savoir un peu quel rôle les plasmides jouent dans l'évolution bactérienne, quelle est leur stabilité dans les bactéries et comment elles se propagent.
Alors, il y a sans doute différents modes de propagation des plasmides. De toute façon, on a beaucoup de mal à tracer une frontière précise entre ce qu'est un plasmide et ce qu'est un virus. En fait, un plasmide, c'est, on pourrait le considérer comme un virus qui n'a pas de capside et qui donc n'a pratiquement pas de possibilité de circuler tout seul dans le milieu, contrairement aux virus qui peuvent sortir d'une cellule pour aller en infecter d'autres. Les plasmides, eux, pour pouvoir se transmettre d'une bactérie à l'autre, nécessitent un contact entre ces bactéries. Donc ça, c'est en ce qui concerne la transmission naturelle de ces plasmides. Alors, quel rôle jouent les plasmides ? Eh bien, ils ont une fonction évidemment extrêmement importante dans l'évolution. Les plasmides transportent toute une série de ce qu'on appelle aujourd'hui des îlots de gènes qui confèrent des propriétés physiologiques particulières aux bactéries qui les portent. Par exemple, des gènes de résistance aux antibiotiques, ça, ce sont les plasmides les plus connus, sont ceux qui portent ces fameux gènes de résistance aux antibiotiques et qui ont aujourd'hui, du fait, disons, de l'utilisation massive, de la surutilisation des antibiotiques, ont proliféré un peu partout, et en particulier, bien sûr, en milieu hospitalier. Mais il y a d'autres, les plasmides portent aussi d'autres caractères que ceux de résistance aux antibiotiques. Mais souvent, il s'agit de résistance à, disons, des agents chimiques ou des xénobiotiques ou autre chose qui peuvent avoir, disons, un effet néfaste sur les bactéries. Donc, lorsque ces bactéries possèdent ces plasmides, elles peuvent résister dans des milieux qui ont une certaine concentration dans ces substances chimiques.
Juste là, vous avez expliqué comment ça peut se propager entre bactéries, mais comment vous avez contrôlé la stabilité des plasmides au sein des bactéries ? Donc, je sais que les bactéries peuvent perdre les plasmides à un moment donné. Donc.
Oui, les bactéries peuvent perdre les plasmides, effectivement. Disons que tant qu'il y a une pression de sélection qui va favoriser les bactéries qui portent les plasmides ne seront pas perdus. Mais, par exemple, vous avez une culture de bactéries qui est capable de pousser en présence d'un antibiotique à cause de gènes de résistance présents sur le plasmide. Le jour où ces antibiotiques ne seront plus utilisés, vous aurez apparition de cellules bactériennes où il n'y a plus de plasmide. Et tout simplement parce qu'il n'y a plus la pression de sélection. Maintenant, pour quelles raisons précises le plasmide ne s'est pas répliqué dans un certain nombre de cellules, ça, ce sont sans doute des accidents divers et variés au moment de la division bactérienne, par exemple, où des cellules ont hérité, disons, du chromosome bactérien, mais pas du plasmide.
Je voudrais poser une petite question. Où en sont les recherches au niveau mondial, les recherches internationales ? Est-ce que le génoscope d'Evry, qui a l'air assez avancé sur ces questions, mais qui a encore beaucoup de travail devant lui, est-il en relation avec d'autres universités, d'autres pays ? Est-ce qu'il y a une communauté scientifique mondiale qui s'intéresse simultanément à ces questions et qui communique en quelque sorte, de sorte que le génoscope ne soit pas un isolat, en quelque sorte. Hein, voilà. Comment ça se passe au niveau international, si vous voulez. Où en est-on aujourd'hui ?
Alors, je suppose que vous parlez, disons, du domaine qui a été exposé, c'est-à-dire celui, disons, de la microbiologie environnementale, on va dire, pour fixer des limites. Il y a bien sûr, comme dans tout domaine de recherche, il y a et à la fois compétition et collaboration internationale. Il y a en particulier parce que souvent ces projets mobilisent des moyens qui sont importants, la constitution de consortiums internationaux qui attaquent à plusieurs un même problème. Aujourd'hui, par exemple, l'étude des flores de tubes digestifs est attaquée aussi bien au niveau américain qu'au niveau européen. Et au niveau européen, c'est constitué un consortium entre différents pays, consortium qui est d'ailleurs coordonné par des collègues de l'INRA. Et donc ce consortium européen a un programme très précis et très détaillé sur l'étude des flores de tubes digestifs et y contribue, je crois, une dizaine de pays européens.
On va prendre la dernière question. Oui. Monsieur.
Quand vous dites que vous avez séquencé le génome, vous l'avez séquencé, mais pas encore décrypté.
C'est très juste.
Je vous interromps. Autrement dit, à chaque gène, sa protéine, et quelle protéine ?
Absolument. Et vous avez tout à fait raison. Au fur et à mesure qu'on séquence de plus en plus de génomes, on accumule le nombre de gènes dont on ne connaît pas la fonction. Et ça, c'est un problème gigantesque qui devient de plus en plus aigu. Et disons, on progresse aussi, bien sûr, dans l'identification de nouvelles fonctions codées par des gènes dont on ne connaissait pas la fonction, ou par des gènes codant pour des protéines dont on ne connaissait pas la fonction, mais ça va beaucoup moins vite que le séquençage.
En pathologie humaine, par exemple, l'expression simultanée de deux gènes peut représenter, peut conduire à une maladie, alors que s'ils ont été exprimés simultanément, il n'y a pas de maladie.
Monsieur Jean Wassenbach, on vous remercie beaucoup.